Bonjour et bienvenue dans les chroniques naturalistes de la Nichoule, une chronique qui est proposée par la LPO Royan-Vercors, la Ligue de protection des oiseaux et de la biodiversité. Cette semaine, on accueille François. Bonjour François.
Bonjour Radio Royan-Vercors.
Et on accueille également Luc. Bonjour Luc.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on va parler donc d'une conférence que tu vas animer, Luc, qui est à l'invitation de la LPO. Dis-nous en plus.
Oui, alors invité par la LPO, il va falloir faire fort, il va falloir faire une belle conférence. Donc ça se passe le 28 mars, ça c'est pour les modalités, ça sera à la salle des fêtes de Saint-Laurent. François pourra en parler après. Et donc l'idée, c'était de parler des arbres, comme on aurait pu parler d'autres choses, mais c'est vrai que les deux arbres que j'ai choisis, que je connais en définitive assez bien, c'est des arbres singuliers, c'est l'if et le tilleul. Ce sont deux arbres qui poussent à l'état sauvage chez nous. Donc ça, c'est très intéressant et ils ont une histoire, évidemment, très importante. Et plus on gratte, plus on regarde, plus on cherche, on voit bien que ces arbres-là qu'on croit connaître, en définitive, on ne les connaît pas du tout. Alors l'idée, c'est de sensibiliser sur ces deux arbres pour expliquer qu'en définitive, ils racontent une histoire incroyable, une histoire humaine, bien entendu, et une histoire biologique, géographique, ainsi de suite. Alors ils sont partout dans le paysage, tous les deux, hein, ils s'entremêlent et ils ont beaucoup, beaucoup d'histoires à nous raconter.
Et même le tilleul qu'on pourrait croire, on le connaît un peu mieux peut-être que l'if, parce qu'on l'a souvent dans les maisons, dans les jardins, dans le Royan et même dans le Vercors. C'est vraiment l'arbre qui se trouve devant la maison. Et puis il y a une histoire un peu agricole aussi qui est liée à ça, une histoire paysanne. Même celui-ci, on le connaît mal.
Alors le tilleul, il est sauvage chez nous et il pousse dans des habitats, c'est le terme qu'on utilise quand on fait de l'écologie, des habitats naturels qui sont très particuliers. C'est un endroit, le tilleul pousse dans des endroits où d'autres essences ne peuvent pas aller. C'est-à-dire qu'il est concurrencé par des essences comme le hêtre, comme le chêne, comme le pin sylvestre, comme le sapin. Et donc dans ces endroits-là, ils sont très particuliers, c'est des chaos de blocs. Un chaos, donc c'est des blocs, hein. Donc ça fait plus de 50 cm, un chaos, hein. Donc en général, c'est des blocs qui se détachent de la falaise. Et dans cette espèce de milieu très inhospitalier, ben, poussent des tilleuls. On voit ça dans Comblaval, par exemple. Alors, dans Comblaval, toutes les grandes pentes de Comblaval, ce sont des tilliers, hein. Et donc ces tilliers sont très, très... Il n'y a pas d'autre essence là au milieu. Très, très peu de hêtre, très, très peu de noisetier, très, très peu de sapin, ainsi de suite. Alors, déjà la première chose, c'est poser les bases des boisements de tilleuls sauvages. Ces boisements sont tellement rares et intéressants qui sont proposés comme étant prioritaires au niveau de la préservation de ces habitats pour le fameux Natura 2000 en Europe. Donc ces habitats, ces boisements sont mis en avant. Et puis évidemment, ce tilleul, on est allé le chercher, on l'a mis dans les jardins, on l'a mis devant les fermes, bien entendu. Alors on raconte, évidemment, quand on se déplace dans le sud, on a une autre histoire avec le tilleul, le fameux tilleul des baronnies. Mais évidemment, ça infuse, hein, pour faire un mauvais jeu de mots par rapport aux tisanes, ça infuse jusque du sud jusqu'au nord, le fameux tilleul de Carpentras, qui n'a jamais été un tilleul de Carpentras. Eh bien, dans les baronnies, évidemment, il y a toute une culture du tilleul. Alors là, on peut passer un temps infini là-dessus. Ce sont des tilleuls qu'on a descendus dans les jardins, qu'on a plantés devant les fermes. Et puis... il y a une centaine d'années, 110 ans, 120 ans, 1890, oui, 150 ans, on a eu la possibilité dans les baronnies de le cultiver. C'est unique au monde, une culture de tilleul, avec des vergers, avec des variétés, avec des arbres greffés, des techniques de taille, des techniques de collecte, évidemment des foires, des négociants en tilleul. Ducrot, le fameux Ducrot, les épices Ducrot, c'est évidemment dans les baronnies que ça s'est passé. Et toute cette culture-là, ben, elle est venue jusqu'à chez nous dans le Royan, puisqu'il y a eu une foire au tilleul dans les années 85-86, où il y a eu donc une foire au tilleul. Et tout ça, c'est lié à un tilleul sauvage qu'on a, d'une certaine façon, domestiqué, qu'on a fait descendre. Alors, là, l'idée première, le tilleul, c'est un arbre, on va dire, compagnon. On ne peut pas lui donner comme autre nom. On raconte, et quand on pose la question aux paysans, que ça soit ici, dans le Diwa, que ça soit dans les baronnies, que ça soit dans le Vercors, quand on pose la question aux paysans et aux gens qui ont un joli tilleul devant leur maison, ils nous disent, s'il y a un tilleul devant la maison, c'est que la maison est accueillante. Ça dit beaucoup de choses. Hein. C'est pas le cas du noyer. On pourrait reparler du noyer, qui lui est différent, est vu de façon différente. Et donc, il a été sélectionné, et on retrouve ici dans le Royan des arbres devant les fermes sélectionnés, qui sont les variétés des baronnies. On est allé les chercher là-bas.
Donc, c'est pas les sauvages.
C'est pas des sauvages.
Okay.
Non, non, c'est des arbres domestiqués qui sont greffés avec des variétés précoces, tardives, qui se cueillent bien, qui sont ramassables plus facilement, qui se sèchent bien, qui ne noircissent pas au séchage, qui sont commercialisables, quoi, pour faire des tisanes. La France a été le plus gros producteur de tilleuls jusque dans les années 70. Je crois que c'était 700 tonnes sèches récoltées. Ah, il y a eu un déclin à partir de cette période-là. Ils essayent par différentes foires et différentes choses dans le sud de remonter un peu ces filières. Il y a encore beaucoup d'arbres de partout. Et actuellement, je crois, les chiffres, ils sont peut-être un petit peu bancals comme chiffres, mais c'est 40 tonnes consommées en France de tilleuls, dont 10 tonnes qui sont produites chez nous. Donc il manque, il y a de quoi faire, ainsi de suite. Bon, ça c'est économique, mais c'est très intéressant de voir qu'on a une espèce sauvage dont on se sert en ce moment, quoi.
Et comment il se porte en ce moment, le tilleul? Parce qu'on parle du réchauffement climatique, des sécheresses ou du manque d'eau qui peuvent impacter certains arbres dans le Royan Vercors. Est-ce que lui, il va être sujet à être fragile à ces changements-là, ou bien est-ce qu'il est résistant?
C'est un arbre qui aime le frais. Alors le mot frais en écologie, ça veut dire que c'est froid et humide. Hein? C'est pas la fraîcheur du frigo, hein? Mais c'est ça, c'est du froid et humide. C'est-à-dire dans ces fameux éboulis naturels avec ces blocs, ce gros bloc qui est gros comme la table sur laquelle on présente là aujourd'hui, hein? Donc ça va faire la grosseur d'une voiture, d'un frigo, enfin bon voilà, un truc gros. Et ce bloc, il va prendre le froid pendant l'hiver. Donc il va se refroidir jusqu'au cœur du caillou, hein, du caillou, du bloc. Comme une maison qu'on aurait du mal à réchauffer, qui est toute en pierre, il va falloir 10, 15, je sais pas, une journée, deux journées, trois journées avant que la maison prenne un petit peu de chaleur. Ce bloc, eh ben, il est froid au printemps. Il est froid et il va se réchauffer tout doucement, dû à la température qui monte, bien entendu, au printemps et en été, ainsi de suite. Et le fait de se réchauffer avec ce froid, ça fait ce qu'on appelle de la condensation. C'est un phénomène tout à fait classique. C'est ce qu'on appelle du frais, de l'humidité avec du froid. Et tout ça, eh bien, ça fait qu'au pied des parois, dans Comblaval, ainsi de suite, qui paraît un milieu complètement hostile, austère, sec d'aspect, parce que c'est du caillou, c'est pas vrai. Les blocs et les cailloux, c'est des endroits relativement humides. Et le tilleul, il a besoin d'eau pour pousser. C'est un arbre qui aime la fraîcheur, qui aime le frais. Voilà. Alors donc, le réchauffement climatique va certainement, on voit très bien en fin d'été, les tilleuls dans Comblaval et ailleurs, sur les coteaux, des tilleuls qui commencent déjà à prendre des teintes jaunes très rapidement, dès le mois d'août, et ainsi de suite. Ça, c'est le fait qu'ils n'ont pas assez d'eau pour continuer à alimenter leurs feuilles. Donc le réchauffement climatique, certainement que ça va être malheureusement un bon indicateur, voilà. Mais vous dire si ça change, je ne sais pas.
Ok, et concernant l'IF alors, quelle est l'histoire de l'IF dans le Royan et dans le Vercors?
Alors l'IF, comme le tilleul, l'IF c'est un arbre qui est sauvage chez nous, et sauvage avec une grande ambiguïté. Hein. Cet arbre, il est connu depuis très longtemps comme étant l'arbre toxique par excellence. Hein. En latin, on l'appelle, en provençal et en occitan, c'est le tasso, les deux S. Hein, T-A-2-S-O. Et ce tasso se transforme, quand on lui donne un nom latin, pour donner un nom scientifique, on met les deux S, se transforme en X. On l'appelle taxus. Taxus baccata. Taxus baccata, c'est l'if qui porte des baies, qui porte des fruits. Et taxus baccata, de taxus, on a donné le mot toxique. C'est pour vous dire si l'importance du mot est... Alors, c'est un arbre qui pousse ici dans nos forêts, qui a été certainement très abondant à une période, il y a juste après la dernière glaciation. Et maintenant, avec depuis 8-10 000 ans, l'avènement du hêtre et du sapin, il a été relégué en sous-bois, ainsi de suite. Mais surtout, sa régression, parce que c'est un arbre qui a régressé à l'état sauvage, il est sur le plateau du Vercors, bien sûr, sa régression est liée au fait que c'était un arbre toxique. Et cet arbre toxique, on l'éliminait des forêts pour la simple et bonne raison que 6 kilos frais tuaient un cheval.
Et le cheval, on parle des baies ou on parle des épines?
On parle de la plante entière.
La plante entière, c'est-à-dire
les rameaux. Et les rameaux étaient attiraient évidemment les chevaux qui débardaient. Un cheval de débardage, on ne le perd pas. Maintenant, on a des engins. Hein, ben voilà, et ces engins, évidemment, c'est entre guillemets beaucoup plus efficace pour aller chercher du bois. Mais ces chevaux, on leur mettait des mangeoires en toile avec de l'avoine pour éviter qu'ils aillent brouter. Alors on sait ça aussi, ces chevaux étaient très utilisés aussi malheureusement pour tirer les corbillards. Et il y avait des ifs, voilà où on va en venir. Les ifs se retrouvaient évidemment dans les cimetières. Parce que la symbolique de l'if, une fois qu'il est sorti de son milieu naturel, et qu'on l'a bien éradiqué, qu'on a bien vu que c'était une plante toxique. L'if, c'est un arbre d'immortalité qui est planté dans les cimetières. Il y en a un peu partout autour de nous. Il y en a dans tous les cimetières de la Drôme, tous les cimetières de l'Isère, partout en France. Et cet arbre-là, il représente donc l'immortalité. On dit de l'if que c'est l'arbre de la connaissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la connaissance et l'immortalité par rapport à cette espèce-là? On dit que l'if, il enfonce ses racines dans le sol pour enfoncer ses racines dans la bouche des morts pour aller chercher la connaissance. L'arbre de la connaissance norvégien, qui s'appelle Yggdrasil, c'est l'arbre de la connaissance, est un if, probablement, très probablement. Donc là, à partir de là, ben, tout le cimetière de Pont-en-Royan, tout le cimetière de d'Auriol, le cimetière de Saint-Martin, ainsi de suite, il y a des ifs comme ça en plein milieu, ainsi de suite. Et ces ifs accompagnent aussi tous les monuments morts. On pense que l'importance de l'arbre dans la culture, dans notre culture, c'est que l'arbre représente l'immortalité. Et quand il y a un if, à où qu'il soit, il y a probablement un mort dessous. On ne le coupe pas. Hein, on ne s'est pas gêné, ainsi de suite. Voilà. Donc on va en trouver devant différents monuments, devant le monument à Gardiole, sur le plateau d'Ambel, il y a un if devant, il y en a un devant le monument à Vassieux, c'est un if qui est taillé, une taille particulière, une taille caniche, ce qu'on appelle une taille caniche, une taille en bonsaï. Il y en a un devant, j'en ai vu à Beaufort-sur-Gervanne, il y en a un petit peu partout, il y en a sur Vassieux. Dès qu'il y a un monument, il y a souvent un arbre qui représente l'immortalité. Ça peut être un cyprès dans le sud, et puis chez nous, c'est plutôt des ifs.
Et donc ça, c'est des arbres qui ont été plantés, donc qui témoignent un peu de l'entremêlement entre une histoire humaine et une histoire naturelle. Mmh. Et tu disais juste avant qu'il y en a moins dans l'état naturel, dans l'état sauvage. Mmh. Est-ce qu'ils recolonisent petit à petit les forêts
Non, c'est très compliqué. On a fait des études, entre autres, une forêt qui nous intéresse beaucoup, c'est une forêt qui est dans le sud de la Drôme, sur la commune de Laborel. Cette forêt porte bien son nom, puis s'appelle la Tussie. Et la Tussie, c'est le bois d'if. C'est une magnifique forêt, c'est une hêtraie avec des sapins, avec des ifs, et qui est colonisée par le sabot de Vénus, la fameuse orchidée. Le sabot de Vénus, alors évidemment, c'est un lieu absolument incroyable, derrière la montagne Chamousse, un lieu incroyable, sous le col de Perthe, et un lieu incroyable pour la flore, pour les naturalistes. Et à cet endroit-là, on a fait des suivis de population, des grandes placettes, pour voir comment se comportaient. Et on a que des vieux, hein. On n'a que des vieux arbres, on n'a pas de petits, on n'a pas d'adolescents, on n'a pas de démographie, on n'a pas une forêt qui serait normale d'avoir des grands, des vieux, des petits, des ados, un petit peu. Voilà. Et donc c'est très compliqué, c'est certainement dû aux herbivores, c'est certainement dû à au couvert qui est trop, trop important. En tous les cas, l'if, c'est sûr, il n'est pas, c'est pas celui qui domine dans les essences actuellement, hein, depuis déjà très longtemps déjà.
Merci pour ces informations sur l'if et le tilleul. C'est des choses qu'on va pouvoir découvrir donc plus en profondeur pendant ta conférence.
Oui.
Donc on le rappelle, ça va avoir lieu le 28 mars à Saint-Laurent-en-Royans dans la salle des fêtes. C'est à l'invitation de la LPO, François. C'est pas la première fois qu'on a des petites conférences naturalistes. On a eu l'habitude d'avoir plutôt des conférences peut-être sur la faune avec l'ours. Vous aviez fait venir Jean-Jacques Camara. Et là, donc, il y a une idée de vouloir diversifier un peu ces formats.
Eh bien oui, il faut diversifier. L'idée, c'est la nature, c'est la faune, c'est la flore, c'est les insectes, c'est le sol et tout ça. Donc voilà, on essaye de diversifier. Au départ, nous, on n'est plus sur la faune, mais on a le grand spécialiste, Luc, à côté de nous. Donc voilà, il faut qu'on en profite. Voilà. Mais alors, cette journée, il y aura plein d'autres choses qu'on fera dans une autre chronique. C'est un autre événement tout, qui va se passer toute la journée.
Eh ben, c'est super. On en profitera pour relayer ça dans notre agenda quotidien, dans les matinales de Radio Royan-Vercors. Et puis, donc, on vous rappellera en temps voulu cette date, donc, cette conférence sur l'if et le tilleul le 28 mars à Saint-Laurent, qui sera proposée, donc, par Luc Garraud, qui est tué botaniste.
Exactement.
Merci, Luc, pour
merci.
Cette chronique. Merci, François.
Merci.
Merci, Radio Royan-Vercors.